Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Tout au long de sa vie, qui s'acheva en décembre 1978, l'écrivain, essayiste et poète Roger Caillois, membre de l'Académie française, tenta d'abattre des murs entre des disciplines savantes, ou plutôt, et pour le dire dans ces termes, il s'adonna à l'exercice des sciences diagonales. De la critique littéraire à la sociologie, de l'entomologie, l'étude des insectes, à la gémologie, l'étude des pierres, aucun champ du savoir humain ne semblait lui être fermé. À en croire ses biographes et ses amis, sa quête intellectuelle était du même ordre que celle qui animait les grands esprits de la Renaissance. L'émission que voici, un numéro d'Une vie, une œuvre, permet de prendre la mesure de l'étendue et de l'éclectisme de l'héritage qu'a laissé Roger Caillois, avec au passage quelques utiles éclairages sur son tempérament et sa vision du monde. Caillois était au fond non un pessimiste, mais un inquiet, qui tenta d'explorer les territoires les plus vastes possibles de l'imaginaire humain avec les outils de la raison. Voici donc Une vie, une œuvre, Roger Caillois, une émission du 26 novembre 1998.
Comme vous le savez, l'homme est un animal. Un animal, ça veut dire quelque chose qui entre dans une catégorie, celle des vertébrés, des mammifères. C'est la première constatation. L'homme est un animal. Il est peut-être un animal particulier, et c'est ce que non seulement moi, mais les différents orateurs auront à préciser, mais il est fondamentalement un animal, tandis que la machine n'est pas un animal. Elle n'est même pas un végétal, la pauvre, elle n'est rien, même. Elle est quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Mais c'est à ce moment-là que les choses deviennent difficiles, parce qu'il n'y a aucun autre animal qui ait fabriqué des machines, qui ait même fabriqué des outils.
Une vie, une œuvre, Roger Caillois, 1913-1978, par Simone Douek et Jean-Claude Loiseau.
Il y a une cohérence dans l'œuvre de Caillois qui semble parfois si disparate, si hachée. Cette cohérence, c'est avant tout la recherche du choc poétique, ce qu'il appelle une disposition fervente à l'accueil, qui d'ailleurs est une très belle expression et surprend assez chez cet homme qui refuse pendant une grande partie de sa vie la poésie. En fait, il est intimement poète. Il est profondément habité par une vision du monde qui est extrêmement violente, extrêmement inquiétante pour lui, qui traduit certainement des tendances pulsionnelles presque autodestructrices. Il refuse la part de poète cracheur de feu qu'il porte en lui et qui, au fond, est la seule qui donne sens à sa vie, qui donne sens à sa quête, qui est sa chair, qui est sa... Pour moi, l'unité de l'œuvre de Caillois, c'est cette recherche poétique qui se fait pendant très longtemps contre lui-même. Il est dressé contre lui-même.
Odile Felgin, sa biographe, aime à placer l'homme, le penseur Caillois, face au maquis du monde. Caillois, lui, a un jour défini son parcours par cette image d'enfance, celle d'un petit chaperon rouge qui s'est dispersé en cueillant des noisettes, en chassant le papillon, en ramassant des cailloux. Les travaux et les jours d'un homme essayant, comme il dit, de circonscrire et d'investir l'énigme centrale. Et nous voici à notre tour sur les cases d'un échiquier dont il manipulerait diaboliquement les pièces. où trouver l'unité dans tous ces fils tissés et entrelacés? Comment atteindre ce qui conduit cette agilité d'esprit et cette curiosité sans bornes mêlées d'ambition, d'incertitude et de contradiction décrits par Dumézil? Kaiwa, les recherches sur le mythe, le sacré, le masque et le mimétisme, les voyages et la littérature, le savant entomologiste et le minéralogiste, l'esthète qui regarde l'art et le fantastique. Kaiwa, l'homme des rencontres et des ruptures. Roger Gilbert Lecomte et ses amis du grand jeu, André Breton, Georges Bataille. Éternel sceptique, il a étudié puis rejeté le marxisme et la psychanalyse. Et pourtant, peut-on ne pas penser à Roger Kaiwa lorsqu'on lit sous la plume de Freud que la substance vivante fait des détours toujours plus compliqués pour atteindre son but, la mort?
Naguère, il m'est arrivé d'utiliser l'image du cours d'eau résurgent pour illustrer les duplications et les échos que je croyais percevoir entre les formes et les démarches de la nature à travers ses différents règnes. Aujourd'hui, sachant que je fais partie du même univers, je n'ai aucun scrupule à me découvrir soumis à un destin identique et moi-même quelques fleuves alphées. À mon tour, je me sens redevenir rivière au bord prochain. J'aborde un nouveau rivage. Je retrouve l'existence exiguë et personnelle dont j'avais conservé contre courants et marées une mémoire lancinante.
La tentation de relecture, il nous la donne lui-même en se reconstruisant en fleuve alphée à la fin de son œuvre, à la fin de sa vie. Le fleuve mythique, né dans le Péloponnèse, nous raconte la légende, a, au risque de s'y perdre, mêlé ses eaux à celles de la mer Ionienne, pour ressurgir près de Syracuse dans l'îlot d'Ortygie et retrouver la nymphe Arétus dont il était tombé amoureux, recouvrant une nouvelle source dans la fontaine du même nom. À la recherche de ces deux sources, Kaiwa plonge dans ce qu'il nomme la parenthèse, la connaissance et le savoir, et se perd dans la toile de l'univers. Se peut-il alors que nous partions de cette belle métaphore pour retrouver l'unité de son œuvre, que nous allions ainsi au-devant de son désir et de son doute de rassembler tant de pièces éparses, Gérard Massé?
Eh bien, curieusement, ce n'est pas ce dernier livre de Kaiwa auquel vous faites allusion qui me convainc le plus. Pourtant, il y a une confidence qui est tout à fait intéressante, il y a un retour sur lui-même qui est passionnant. Et vous faites allusion à cette image du fleuve Alphée. On voit bien que dans le cours plutôt curieux et à un moment inversé du fleuve lui-même, il y a une image de la vie de Kaiwa, ou en tout cas une image rêvée. Seulement, je vois aussi que cette image, elle est, je ne sais pourquoi, enfin, comme un peu forcée ou ajoutée. Je veux dire que Kaiwa cherchait en effet une image qui rendrait compte ou même unifierait ses curiosités diverses, sa personnalité qu'il pouvait juger comme un peu dispersée ou morcelée. Moi j'imagine plutôt, parce que vous avez parlé des différentes pièces, que c'est dans l'image du jeu ou de l'échiquier qu'on retrouve le mieux Kaiwa. Y compris, justement, parce que ça peut prévoir les pièces manquantes et surtout les diagonales. Et dans le jeu d'échecs, c'est sûrement pas les parties elles-mêmes, comme pour Marcel Duchamp, par exemple, qui intéresse le plus Kaiwa, que la démarche oblique. Et d'ailleurs, il y a un de ses petits livres qui s'appelle également Oblique. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est-à-dire la possibilité d'établir des liens qui ne soient pas des liens dus à la perspective ou à la ligne droite. Et c'est l'esprit du curieux, du cabinet des merveilles ou du cabinet de curiosité, du Wunderkammer qui a été longtemps le lieu même du collectionneur et du savant, parce qu'il n'y a pas que le collectionneur. C'est lui qui est capable d'établir des rapports lointains entre les choses, mais des rapports les plus justes, enfin les plus avérés possibles. C'est ce qu'il appelle à un autre moment, je crois, je sais plus dans quel texte, parce que ça c'est quelque chose qui revient très souvent chez lui, les énigmes communiquées.
Je ne manque jamais de noter les caractères qui rapprochent les animaux des hommes et qui ne sont ni simplement biologiques, comme de respirer ou de se nourrir, ni dictés immédiatement par l'instinct, comme la lutte pour la vie ou l'amour maternel. Ceux qui semblent plus gratuits, et qui ne le sont peut-être que pour notre esprit pratique, sinon mercantile, ceux qui en tout cas sont moins directement imposés par la loi même d'exister, demeurent nombreux. Les jeux d'émulation et de vertige, l'agriculture pour les fourmis qui cultivent des champignons, l'élevage pour les fourmis encore, qui entretiennent des pucerons esclaves dont elles sucent les sécrétions paralysantes et qui dévorent leurs œufs, l'industrie pour l'abeille qui produit le miel comme les hommes la fonte ou l'acier, les conventions et la loyauté dans le combat chez les petits paons sauvages et entre les loups, le goût des préséances à la basse-cour et ailleurs, le snobisme de la résidence centrale, privilégiée, qui, chez certaines antilopes de l'Ouganda, attire les femelles mieux que la vigueur du mâle, l'art de la décoration chez les oiseaux jardiniers, tant de convergences qui marquent des besoins identiques, satisfaits par des voies différentes.
C'est pas pour rien que de la menthe religieuse aux pierres, en passant par les papillons, la peinture, les méduses, la dissymétrie, la littérature fantastique, pour énumérer quelques-uns des sujets de curiosité de Caillois, il y a des choses qui reviennent, qui sont extrêmement proches. C'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi qui sans doute s'est interrogé sur son parcours ou sur ses erreurs de parcours, comme peu d'écrivains ou comme peu de penseurs. Car je crois qu'on peut appliquer ce terme de penseur à Caillois, même s'il n'utilise pas le jargon philosophique, et d'ailleurs il s'en explique très bien à certains moments. Il est revenu sur son propre parcours ou sur des leurres, car il est fasciné par les leurres. Seulement, les leurres, ça peut être le lyrisme de la poésie, qu'il trouve au fond comme un peu naïf ou faux, ou truqué. Ça peut être des leurres politiques, comme le marxisme. Ça peut être des leurres comme ce qu'il appelle une fausse science, la psychanalyse. Bon, seulement, il s'aperçoit aussi qu'à ne pas vouloir marcher dans ces leurres, sans doute il rate quelque chose à certains moments. Oui, alors, il y a quelque chose qui, à mon avis, définit la personnalité de Caillois, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas être dupe. Et il y arrive. C'est ça l'exploit. C'est qu'il arrive, en effet, à n'être dupe d'à peu près rien. Dans les illusions du siècle, dans les erreurs des gens de sa génération, il n'a pas versé dans grand-chose. Ni dans la croyance dans la magie surréaliste, voire l'affaire des haricots sauteurs qu'il a opposé à André Breton, où je parlais du marxisme, de la psychanalyse, etc. On pourrait en ajouter bien d'autres. Il n'a été dupe à peu près de rien. Seulement, il a souffert de cette lucidité. C'est-à-dire que je me demande si cette lucidité n'a pas été une torture. Parce que Caillois est assez intelligent pour voir que pour aimer l'art, ou pour le pratiquer encore plus, il faut bien à certains moments être dupe. On marche aussi avec des leurres.
Il parle d'émotion d'abîme, il parle de paix, de recherche de la sérénité, et en même temps, il est possédé par ce qu'il appelle le maquis du monde, dans le fleuve Alphée par exemple, qu'il cherche à débroussailler. Moi je trouve que c'est extrêmement beau, c'est extrêmement profond, et cela montre la dimension de l'écrivain, de l'homme de lettres, de l'essayiste et surtout du poète.
J'ai un côté paradoxal, c'est-à-dire que ce qui m'a d'abord semblé naturel, brusquement, je trouve qu'il y a comme une fêlure, comme une fissure, qui fait que si on regarde des choses de plus près, ça devient inintelligible.
Moi, il me semble qu'il y a une grande unité dans la démarche de Caillois, mais c'est une unité contradictoire.
Laurent Génie.
Caillois est un homme qui a été fasciné par la recherche d'une unité, effectivement, dès le début. Une unité en particulier entre forme intellectuelle ou forme de l'imaginaire et puis forme du monde, forme sensible. Il a essayé de trouver la clé de cette unité, mais en même temps, trouver cette unité ou l'accomplir, ça comportait beaucoup de risques pour lui, et en particulier celui de disparaître, parce que peut-être que lorsque cette unité est réalisé ou trouvé ou accompli, alors il n'y a plus de sujet de la connaissance, il n'y a plus de sujet psychologique et il n'y a plus personne. Donc je crois que c'est ça, entre désir et angoisse et répulsion, que se situe toute la démarche de Caillois. Il me semble qu'on peut interpréter toutes ces attitudes intellectuelles, politiques même, esthétiques, par rapport à cette attirance-répulsion pour une unité du monde qui l'exclurait, pour finir. Alors, il y a beaucoup de traces, en fait, de cette ambivalence chez Caillois, à toutes sortes d'âges de sa vie. On peut les rappeler, si vous voulez.
On peut les rappeler, oui, serait bien, justement, d'essayer de se retrouver dans ça.
J'en prends trois symptômes, à des moments divers de l'existence de Caillois. Dans un livre qui a été publié très tard, mais qui est son premier livre, La nécessité d'esprit, qu'il a rédigé entre 1933 et 1936, entre beaucoup d'autres choses, Caillois raconte qu'il a été la proie d'une attirance morbide, en fait, pour ce qu'on appelait alors la psychasthénie. La psychasthénie, c'est un mot qu'on n'emploie plus tellement en psychiatrie aujourd'hui, que je sache, mais c'était le nom d'une névrose, entre guillemets, décrite par Pierre Janet, et qui consistait en un trouble dans la sensation de l'espace. Le sujet se sent hors de son corps, il se sent absorbé ou happé par l'espace extérieur, il ne sait plus exactement où il se trouve. Et Caillois raconte que, délibérément, il a cultivé, en fait, les symptômes de cette névrose. Mais je crois que ça renvoyait déjà à une certaine attirance pour une fusion quasi extatique, en fait, avec le monde extérieur. Bien. Quelques années plus tard, nous retrouvons ce terme de psychasthénie, et cette fois-ci, ça n'est plus dans une confidence autobiographique, mais c'est dans un essai qui se veut scientifique. Les scientifiques n'en sont pas très d'accord, d'ailleurs, à l'époque. C'est « Le mythe et l'homme », en 1937. Il y a un chapitre du « Mythe et l'homme » qui s'intitule « Mimétisme et psychasthénie légendaire ». Et de quoi parle-t-il, ce chapitre ? Eh bien, Caillois s'intéresse à la question du mimétisme animal, c'est-à-dire des insectes qui... non seulement se camoufle, mais quelquefois adopte franchement la forme d'autres êtres. Alors, les naturalistes ont plutôt tendance à penser que ce mimétisme a une fonction darwinienne de protection des espèces et que ça sert à se camoufler par rapport aux prédateurs. Mais Caillois débusque des faits beaucoup plus troublants, il a une toute autre lecture. Et pour lui, le mimétisme est une tendance aberrante chez un certain nombre d'insectes. Il montre que des insectes, par exemple, qui se camouflent en feuilles mortes, en viennent presque à se manger les uns les autres parce qu'ils se confondent réellement avec des feuilles mortes. Et il identifie cette attitude à la psychasthénie, justement, la tentation de l'espace, la tentation de la démission et de l'extériorité. Il identifie aussi à la magie mimétique, mais une magie qui aurait mal tourné, en quelque sorte, une magie où le sorcier se serait pris à son propre enchantement. Il y a un exergue, en fait, de ce chapitre qui dit ceci, « Prends garde à jouer au fantôme, on le devient ». C'est un avertissement qui est évidemment adressé à l'insecte, mais à Caillois lui-même.
Alors, nous nous trouvons vraiment en face d'une opposition de l'extérieur et de l'intérieur. Tout ce que fait l'homme, il le fait à partir d'objets extérieurs. Au contraire, l'animal le fait à partir de ce qu'il a. Vous me direz, il y a des animaux qui se déguisent. Alors on pourrait penser qu'ils s'habillent. Oui, il y en a. Il y a le crabe oxyrinque ou un mollusque qui s'appelle Xenophora. Bon, ils s'habillent. Ils s'habillent, c'est-à-dire ils prennent des algues ou n'importe quoi pour se mettre dessus. Mais justement, ils prennent n'importe quoi. C'est une activité automatique. On peut donner à des crabes oxyrinques des morceaux de journaux. Il les prend immédiatement avec sa pince pour se les coller sur la carapace. N'est-ce pas ? Parce que ce qu'il y a, c'est le fonctionnement automatique de se mettre n'importe quoi sur son dos. Et il ne pense pas qu'il n'y a rien qui fasse remarquer plus un crabe que des morceaux de journaux. Alors, nous sommes en présence de ces animaux qui sont extraordinairement adaptés à fouiller la terre, ou à injecter un venin dans des proies. Et l'homme, on a l'impression que l'homme est un animal qui s'est désadapté, qu'il est adapté à rien. Mais du fait qu'il est adapté à rien, il a conquis la possibilité de devenir apte à tout, ou à peu près.
Et puis je prendrais un troisième symptôme de cette attirance, donc répulsion, pour ce qu'on pourrait appeler l'extase matérielle, pour reprendre l'expression de Le Clézio. Alors c'est un récit tardif, c'est une nouvelle de 1969. Ça s'appelle « Le récit du délogé ». C'est un récit très curieux où nous avons un narrateur qui parle à la première personne. On va voir que c'est assez singulier étant donné la suite. Et c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui, un beau jour, se découvre une grosseur sous la peau, un corps étranger. Et il ne va pas tarder à s'apercevoir que ce corps étranger n'est pas ni une tumeur, ni même un corps inerte, mais c'est un être vivant, c'est un coquillage, une sorte de palourde, une folade. Et ce coquillage, progressivement, va le déloger de son propre corps, c'est-à-dire troubler sa perception corporelle, et puis l'investir de ses désirs. Ce narrateur finit par se rendre au bord de la mer, avancer dans l'eau, et voyant une flaque plus profonde, s'y noyer, et y poursuivre une sorte d'existence désindividuée et impersonnelle, qui est celle donc d'une folade secouée par les rythmes marins. Vous voyez qu'on rejoint aussi l'idée du fleuve Alphée. Hein, voilà. Alors, donc il y a toujours eu cette tentation chez Kaiwa, et il y a toujours eu des mouvements absolument contraires, de raidissement, de recherche en fait d'un ordre très structuré, qui puisse lutter contre tout ce qu'il y avait de vertigineux dans cette tentation. Et nous voyons toute la démarche intellectuelle de Kaiwa comme une oscillation perpétuelle, mais aussi une ambivalence, parce que paradoxalement, souvent les remèdes qu'il a trouvés pour lutter contre cette tentation l'ont ramené à un nouveau désordre. Le surordre a très souvent ramené à un nouveau désordre, et je pense que c'est le cas notamment dans l'ordre politique.
Gérard Massé.
Quand on se met à lire de façon un peu assidue Kaiwa, on voit qu'il y a des passerelles sans arrêt d'un livre à l'autre. Et que, en effet, c'est comme les cases d'un échiquier, c'est ce qu'il dit lui-même, ou plutôt les morceaux d'un puzzle. Mais d'un puzzle qui serait à jamais incomplet, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une image manquante. Et là, alors, on touche peut-être à quelque chose de l'ordre de la vérité intime pour Kaiwa. Je pense qu'il y a la sensation en lui-même de ce vide, de cette incomplétude à peu près forcé, et c'est quelque chose qui l'anime ça très 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 fort, qui l'angoisse et qui en même temps l'attire. Voilà. Alors il faut faire ces lectures obliques parce que on voit aussi qu'il y a une pensée extrêmement cohérente dans ses attirances et ses inquiétudes, dans ses affirmations et dans ses frustrations tout à la fois, parce que Kaiwa est un esprit qui a une certaine raideur, certes plus même que de la rigueur encore, enfin ça a dépendu des périodes d'ailleurs, mais au milieu de sa vie, il y a eu un moment où c'est quelqu'un d'assez froid dans sa réflexion. Et puis, il y a des moments où il se laisse aller davantage, et il se laisse inquiéter justement.
Alors justement, comment est-ce qu'on peut peut-être de façon plus précise retrouver ces passerelles, peut-être en regardant quelques œuvres ou...
Ben, il a essayé de le faire lui-même dans ses tables des matières, par exemple. Oui. Ne serait-ce que dans ce livre qui rassemble des essais apparemment épars et qu'il a regroupé sous le titre « Cases d'un échiquier », puisque celui-là, je l'ai trouvé récemment, c'est le dernier livre de Kaiwa que j'ai lu, et je l'ai sous les yeux. Eh bien, dans ce livre, il s'amuse à faire à la fin, par exemple, une table de concordance. Il suffit de prendre cet exemple. Il met à gauche les titres des chapitres du présent ouvrage, c'est-à-dire Cases d'un échiquier, et puis en regard, il annonce qu'il va mettre les titres du ou des ouvrages précédents qui se rapportent au même sujet. Alors, par exemple, il y a dans Case d'un échiquier un texte qui s'appelle Découverte de l'art. En regard, il rappelle cet autre livre de lui qui s'appelle Procès intellectuel de l'art et qui est l'un de ses tout premiers livres. C'est-à-dire à quel point, vous voyez, il y a une constante chez lui. L'ombre du masque, eh bien, il rappelle qu'il a traité du masque dans L'homme et le sacré ou dans Les jeux et les hommes au chapitre 7. C'est-à-dire que lui-même, vous voyez, établit ce qu'il appelle une table de concordance. À mon avis, il y a le rappel de Mendeleïev, là. C'est-à-dire qu'une des images qu'il fascine, sans doute, à part l'échiquier, c'est le tableau de Mendeleïev.
Pour moi, la trouvaille, si vous voulez, c'est toujours une rupture avec un équilibre ou une régularité établie. Et ce que j'appelle, on peut appeler l'étincelle ou la pensée ou ce qu'on veut, la perception rapide d'une autre vérité intervient toujours comme une rupture d'une symétrie. Mais cette dissymétrie, je ne le donne pas du tout comme une fantaisie ni un caprice. Autour de cette intuition, si vous voulez, mon travail est de reconstruire une cohérence, mais une cohérence différente de la première, une cohérence qui intègre plus d'éléments, et en tout cas dans un autre ordre, dans une autre disposition, qui agira à son tour comme une espèce de verrou.
Mes travaux, comme je l'ai souligné, avaient en commun un caractère un peu louche, du moins périphérique par rapport aux normes en honneur. Ils me préparaient, sans que j'en eusse conscience, au revirement final.
Dans Case d'un échiquier, il parle de lui-même comme d'une figure errante et myope.
Odile Felgin.
Naviguant ou bougeant sur un échiquier, il parle des larges pans de ténèbres. Effectivement, il y a quelque chose de douloureux dans cette quête, qui est d'abord une quête vertigineuse, et on sait combien le vertige, la notion de vertige est importante chez Caillois. Vous comprenez ? Le vertige, on le trouve dans les textes du tout début. On le trouve même dans les souvenirs d'enfance. Il s'amuse à grimper sur un pylône électrique et il dit il manque quelque chose à l'homme qui ne s'est pas senti éperdu de vertige. Il le dit et il tentera d'analyser ce goût pour l'abîme, en quelque sorte, dans divers textes. Et il essaiera, moi, à mon avis, il essaiera de les rationaliser, de rationaliser ses goûts, dans des livres comme Les Jeux et les Hommes, par exemple.
Montrez-moi la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. C'est elle la pierre d'angle.
À la fin, je définis à mon usage l'idée d'une architecture en creux. Elle n'ajoute rien d'apparent à la surface du globe, mais elle l'approfondit secrètement. L'autre, par comparaison, en vint à me sembler présomptueuse, laide et malsaine, comme une excroissance, en tout cas vouée à la ruine. Je ne sais ce qui, lentement, me séduisit d'abord dans les constructions clandestines. Le secret, assurément. Peut-être le surcroît de peine qu'elles avaient coûté, la pénombre inévitable, la simplification forcée. Surtout, il me semble, les issues et orifices, comme autant de fenêtres inverses, donnant sur la face interne, sur le plein du monde. L'architecture secrète, qui est dirigée elle aussi vers l'intérieur, ne fournit peut-être qu'une autre apparence du piège que proposent les minéraux, les labyrinthes, et, je présume,
beaucoup d'autres simulacres. Ainsi en va-t-il de la vie elle-même. On y entre par un corridor étroit, chaud et obscur. Personne n'atteint la révélation qui semblait d'abord lui être promise. Chacun, comme j'ai fait, se distrait aux lézardes des murs, à l'assemblage des pierres, à la perspective des piliers. Il n'est pas de retour possible vers l'origine. L'égaré, traqué ou distrait, erre jusqu'à l'épuisement de ses forces, de carrefour en carrefour. Heureux s'il a pu pressentir, avant de disparaître, l'architecture dérobée de l'inépuisable dédale.
Claude-Pierre Pérez.
Ces livres s'apparentent d'une certaine manière à ce qu'on pourrait appeler un livre des merveilles. Il y a toujours une sorte d'émerveillement devant un objet. Ça peut être un émerveillement devant une pierre, devant le granit graphique ou devant le quartz fantôme. Ça peut être un émerveillement devant un insecte, comme par exemple le fulgore porte-lanterne, cette drôle de bestiole qui est en fait une variété de cigale brésilienne et qui porte sur la tête une protubérance qui a la particularité, alors selon certains, d'être lumineuse, mais ça c'est pas tout à fait certain, mais qui en tout cas ressemble à une tête de crocodile. Lorsqu'il fait de la sociologie même, il fait une sociologie qui est quand même une sociologie assez particulière. Il fait par exemple la sociologie du bourreau. Bourreau, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais on ne le verra jamais faire la sociologie des intellectuels, des cadres moyens ou des agriculteurs. Ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il cherche, ce qui peut motiver son travail, c'est un objet qui, d'une certaine manière, soit un objet fascinant. Alors,
il y a quelque chose de l'hypnose même par rapport au sujet qu'il regarde.
Sans doute. Il y a un terme qui revient souvent sous sa plume, qui n'est pas celui d'hypnose, mais qui n'est pas sans rapport peut-être avec lui, qui est celui de vertige. Et peut-être que tous ces, ou que la plupart en tout cas, de ces objets sur lesquels il a travaillé, ce sont des objets qui, d'une manière ou d'une autre, sont des objets vertigineux. Il définissait un homme au proie au vertige comme celui qui se hâte vers l'objet de sa frayeur.
J'ai reçu, il y a quelques jours, une lettre de l'université de Clermont-Ferrand, du club d'études révolutionnaires, vous l'avez probablement reçu aussi, où l'on me demandait de faire une communication au mois de juin prochain sur les fêtes révolutionnaires. Et il y avait toute une liste très impressionnante d'ailleurs, et que j'admire beaucoup. Et alors je ne pouvais malheureusement pas le faire, mais je l'aurais écrit, mes regrets, qu'à la fin du collège de sociologie, Georges Bataille et moi avions pensé à reprendre, non pas l'idée, mais d'une commémoration révolutionnaire, et la fête révolutionnaire par excellence nous paraissait la guillotine. Or, il n'y avait rien sur la guillotine. La guillotine avec son cérémonial, n'est-ce pas? Les roulements de tambour, de santerre, de la promenade avec la charrette, la tête montrée au peuple et tout cela. Et même Georges Bataille et moi, à la fin, avant que la guerre interrompe nos activités, nous avions l'intention de faire une cérémonie pas propitiatoire, mais commémorative, sur la place de la Concorde, le jour de l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI, à la place où il y avait l'échafaud. On nous aurait conduit au poste, mais ça, c'était un peu ce que nous cherchions.
Avec Georges Bataille, Jules Monroe, Pierre Klossowski, Pierre Libra, Roger Caillois signe en 1937 la première note sur la fondation du Collège de sociologie, nouveau vertige pour lui. Quand nous disions « Collège de sociologie », cela supposait le Collège du Sacré et le Sacré Collège, pour ainsi dire. Cette conspiration, comme il l'appelle, hantée par l'idée du sacrifice, qui demeura en suspens, faute d'un sacrificateur bénévole. Laurent Génie.
Comme d'autres groupes, d'abord c'est un collège, il a une forme très collégiale, peut-être un peu plus particulière dans le cas du collège de sociologie, c'est pas un groupe public comme le groupe surréaliste par exemple, où il y a des entrées et des sorties fracassantes, ça ressemble un peu plus à une société secrète, en même temps que c'est un groupe, on va le voir, un groupe d'études. Bon, c'est un groupe qui réfléchit à la situation sociale et politique dans des années extrêmement périlleuses, les années donc de la montée des périls, et qui s'efforce de réagir à ce qu'on a appelé la faiblesse des démocraties dans l'immédiate avant-guerre. C'est pas le seul, il y en a d'autres, autour de revues, comme il y a par exemple tous les non-conformistes des années 30, autour des revues Esprit, Ordre Nouveau, etc. Mais je dirais que ce qui est plus singulier dans ce groupe, et ce qui le distingue alors tout à fait des autres, c'est qu'il se réfère beaucoup à la sociologie française, et en particulier à toutes les études contemporaines concernant le sacré. Caillois a été étudiant à l'école des hautes études, il a suivi les enseignements de Durkheim, de Mauss et d'autres encore. Et ce à quoi nous assistons, c'est à la conjonction d'une réflexion politique, philosophique et sociologique. Et qui plus est, ce qui rend ce groupe singulier, c'est que de l'étude sociologique et de l'étude du sacré, il veut passer à l'action et même à une sorte d'activisme, on peut dire, assez dangereux, rétrospectivement.
Une des causes des mécontes que le collège a rencontrées, c'est effectivement l'impossibilité de mener une sociologie activiste. Bataille voulait, lui, profondément s'engager dans le réel, dans le combat du réel, tandis que vous, me semble-t-il...
Bah, j'étais beaucoup plus cérébral et plus intellectuel, c'est ce qui me reprochait, plus détaché d'ailleurs. D'accord en ceci avec quelqu'un pour qui nous avions tous les deux un grand respect, Alexandre Kojevnikov, qui a publié ensuite des livres sous le nom abrégé de Kojève, trouvait que l'entreprise telle que la concevait Bataille était contradictoire dans les termes. On ne crée pas le sacré en sachant qu'on crée le sacré. Kojevnikov disait très pertinemment, à mon sens, c'est comme si un prestidigitateur qui fait croire à la magie chez les spectateurs, il croyait lui-même, n'est-ce pas? Alors qu'il sait très bien par quel trucage il réalise ce qui apparaît comme des miracles. Cette objection n'arrêtait pas Bataille. Il disait, bien non, on saura au début que nous sommes des truqueurs, en tout cas nous le saurons nous-mêmes sur nous-mêmes, mais nous serons portés par l'incendie que nous aurons allumé. Malheureusement, ce sont d'autres qui ont allumé l'incendie, bien sûr.
Alors, ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est que Caillois, pour revenir à ce qu'on disait, Caillois ici rêve un surordre dans l'espace politique. Évidemment, il s'aperçoit que ce surordre a été réalisé finalement du côté même qu'on essayait de combattre et qu'il a abouti à une catastrophe, à une déréliction totale et à un néant. Et il est quand même revenu là-dessus après-guerre, en constatant, c'est dans un essai sur l'esprit des sectes, en constatant que lorsque se réalisait cette confusion de la société et de la secte, qu'il avait finalement rêvé, alors fatalement, ce qui se passait, c'était une sacralisation de toute la société et que ça conduisait nécessairement à la guerre, c'est-à-dire finalement au pire des désordres. Alors là, il y a, je crois, donc quelque chose de très caractéristique de la façon dont on pourrait dire que l'attitude réactionnelle par rapport au désordre conduit chez Caillois à un nouveau désordre.
Levez-vous, jeunes hommes et temps nouveaux. Faites front contre les mercenaires de l'ignorance, car il en est dans notre camp, à la cour et à l'université, qui, s'il le pouvait, avivirait l'esprit et prolongerait la guerre à jamais.
Le salut du monde dépend de la crucifixion du Christ. Qu'il vive, qu'il meure de sa belle mort, de la piqûre d'une vipère à cornes ou de la peste ou de la gangrène, de n'importe quoi comme tout le monde, c'en est fait de la rédemption. Mais grâce à moi, Judas Iscariote, et grâce à toi, procurateur, il n'en sera rien. Le Fils de l'homme, comme il est dit, sera crucifié dans l'espace et ses os seront comptés. Ne va pas par un geste magnanime, ne va pas, saboteur de la rédemption de l'homme, ne va pas libérer l'innocent que j'ai livré, accomplis les Écritures et assure la gloire du Sauveur par l'ignominie des tourments endurés. La mort sur la croix
comprends-tu, garantira le divin message. C'est le paraphe et le sceau qui l'authentifient. Nous sommes les ouvriers indispensables de la rédemption. Dès maintenant, nos deux noms sont associés pour l'éternité, le lâche et le traître. En réalité, le courageux et le loyal par excellence, celui dont la faiblesse était nécessaire, et l'autre, si dévoué qu'il accepta par amour d'être à jamais marqué par le stigmate de la félonie. Tu seras exécré, mais console-toi, lui sait qu'il n'aurait pas pu racheter les hommes sans ma prétendue traîtrise et sans ta fausse lâcheté. Consent comme moi le sacrifice qui nous donnera le pas sur les plus grands saints.
Le problème que se pose Pilate est le suivant. Est-ce qu'on peut demander aux hommes au nom des hommes ce que les religions leur demandent au nom des dieux? Et pour cela, il me fallait imaginer non pas tellement un Pilate qui libère le Christ, mais un Pilate qui sait que s'il libère le Christ, il n'y aura pas de christianisme. Et Pilate, ce que Pilate se demande, averti comme il est d'abord par ce texte que j'ai choisi, qui est le monologue que Judas tient devant lui, et surtout par un espèce de voyant chaldéen que j'ai inventé et qui lui raconte avec toutes sortes de détails que j'ai voulu les plus significatifs possibles, les transformations que le christianisme apportera à l'humanité, eh bien, sachant cela, il préfère tout de même ne rien demander aux dieux, et il préfère que ce soit l'homme tout seul, sans le secours de croyance. Pilate est stoïcien, par conséquent, il ne croit pas aux divinités, mais il croit, comme croit le chaldéen dont j'ai parlé, c'est au secours que peut apporter à l'homme la croyance en des divinités. Mais Pilate, qui représente dans cette œuvre le rationalisme absolu, croit que même de cette croyance on peut se passer. Et que l'homme doit s'en passer parce qu'elle paye trop cher le fait de faire appel à elle.
En 1936 ou 37, Caillois a collaboré à un numéro des Cahiers du Sud qui était consacré au romantisme allemand.
Claude-Pierre Pérez.
Et il a écrit à cette occasion un article qui s'appelle L'Alternative. Et l'alternative est la suivante. Il faut choisir, dit-il, entre le savoir, le vrai, Wissenschaftlehre, le mot allemand est dans le sous-titre de son article, ou bien Naturphilosophie, philosophie de la nature. Et il dit ceci, il dit, lorsque les romantiques allemands, Novalis, etc., ont voulu faire de la philosophie de la nature, ils se sont énormément trompés, ils ont dit énormément de sottises, et son article est à certains égards extrêmement sévère à l'égard du romantisme allemand. Bien. Mais je crois qu'il ne faut pas en rester là. Parce que, en même temps, il dit, la préoccupation de ces gens-là, en 1800, est extrêmement proche de la nôtre aujourd'hui. D'un certain point de vue, ils sont extrêmement modernes. En quoi sont-ils modernes? En quoi sont-ils proches de nous? Eh bien, c'est que, en 1800, dit-il, c'est un des rares moments dans l'histoire de l'humanité où les poètes, d'une part, et les scientifiques, d'autre part, ne s'ignorent pas, cessent de s'ignorer. Or, nous sommes précisément actuellement, donc en 1936-37, dans la même situation. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans la même situation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait l'actualité de cette question à la fin des années 30? Eh bien, pour trouver la réponse, on peut se tourner vers une autre publication qui est presque contemporaine, qui est une petite revue, qui a eu un seul numéro, et qui répondait au titre de Inquisition, titre assez caillouasien d'ailleurs, il y a quelque chose d'un inquisiteur souvent chez Caillois. Et cette revue a donc accueilli plusieurs collaborations, celle de Caillois, celle de Gaston Bachelard, d'autres encore. Or, toutes, ou pratiquement toutes, les communications, tous les articles qu'on trouve dans cette revue, tournent autour de la question de la science, et plus précisément de ce qu'on appelle à ce moment-là la nouvelle science. Nouvelle science, ça veut dire quoi ? C'est essentiellement la nouvelle physique, c'est-à-dire la physique quantique, c'est-à-dire la physique relativiste d'Einstein. Alors, j'en reviens au point de contact, n'est-ce pas, entre les gens de 1800 et ceux de 1930. En fait, on aboutit à ce paradoxe que la nouvelle science, la nouvelle physique, est vue par Caillois et par ses amis comme une alliée dans l'entreprise qui est en fait l'entreprise de la poésie depuis Rimbaud, Lautre et Hamon, poursuivi avec les surréalistes. Cette nouvelle science, il dit quelque part que c'est elle qui va réaliser le projet de Rimbaud, c'est-à-dire le dérèglement de tous les sens. Il attend d'elle, ce qui est peut-être un peu paradoxal, cette conquête idéale, dit-il, la transgression des modes de pensée.
Vous êtes vraiment une sauvage. Votre douceur même est une douceur d'animal sauvage. Les animaux qui sortent les griffes sont toujours beaucoup plus doux que les autres. Ils savent mieux se détendre, ils sont plus caressants, leur fourrure est plus soyeuse, leurs paupières plus facilement closes. Mais tout de même, il reste cet imperceptible frémissement de la race, cette possibilité de sortir soudain les griffes, comme vous savez faire. Et l'éclat du regard à ce moment-là, des yeux qui n'abdiquent pas. Je ne suis pas en garde contre vous. Je ne vous aimerai pas sans griffes, peut-être. Lettre à Victoria Ocampo, mars 1939.
Caillois, en 1939, rencontre Victoria Ocampo.
Odile Felgin.
Plus exactement, Victoria Ocampo vient vers lui. Il est à ce moment-là un être qui est tenu pour une brebis égarée entre des tendances ou des faiblesses pour la force qu'il attribue désormais au communisme, alors qu'on l'a accusé d'être sur une voie fascisante, ce qui, à mon avis, n'est pas vrai. Mais Victoria Ocampo, en l'emmenant en Argentine pour des conférences en 1939, va lui faire découvrir tout un continent et toute sa démesure et toute une culture qu'il ne connaissait absolument pas, dont il ne connaissait strictement rien. Il ne parlait pas espagnol. Il se vante d'ailleurs de n'avoir pas appris l'espagnol dans un entretien pendant son séjour. Il exagère évidemment, mais il va énormément recevoir auprès de cette femme qui a une revue qui est l'équivalent de la NRF, Sourd, qui publie des plus grands auteurs occidentaux et sud-américain, et qui a, on ne peut pas le nier, à mon avis, su à la fois s'entourer de gens de grande valeur et donner la parole à des écrivains, à des auteurs ou à des créateurs, des artistes, entre autres, exceptionnels, dont Borges, évidemment. Et dans la correspondance avec Victoria Ocampo, alors là, on voit l'homme qui se voulait inaffectif. Et pourtant, moi, à mon avis, il ne l'est pas. Il parle de son cœur de toile cirée, il dit qu'il n'a pas d'affectivité ou qu'il a une affectivité réduite. Donc on a dit que c'était un être de glace, et Victoria Ocampo, une femme de feu, certainement de tempéraments extrêmement dissemblables et qui pourtant vont se rejoindre et vont... deux êtres qui vont énormément s'apporter. Eh bien, au fil de cette correspondance, Caillois évolue de telle sorte que, à la fin de sa vie, plus humain, il peut dire à mots ténus ou à mots plus explicites à Victoria combien elle lui a apporté, combien il lui est redevable, et non seulement sur le plan de son épanouissement intellectuel, culturel, la découverte de l'Amérique latine, des auteurs sud-américains, etc., sur le plan de la carrière aussi, puisqu'elle l'a aidé quand même, mais aussi sur le plan du cœur, sur le plan des sentiments, et finalement, c'est de l'amour, enfin, ce sont des lettres d'amour que l'on trouve à la fin.
Sur l'écran bleu du ciel, aux seules îles Canaries, que la crédulité affirme les cimes de l'Atlantide immergée, l'énorme dragonnier bifide déploie par fourches successives et identiques, comme angle de cristal, sa frondaison immense. Le monde est un arbre pareil, une sève unique qui circule du tronc massif au pâle surgeon. La brindille morte en demeure elle-même innervée. La même trame gouverne souterrainement la nature entière. Personne ne sait la place qu'il y occupe.
Gérard Masset a eu l'intuition, y versant, que vous seriez heureux de relier Caillois à l'esprit de la Renaissance.
C'est-à-dire que ma lecture de Caillois est en effet aujourd'hui liée, filtrée et enrichie par celle de la Renaissance. Je crois qu'il y a trois ou quatre domaines majeurs dans lesquels la Renaissance et Caillois s'éclairent réciproquement. D'abord, la question de l'imagination. Il y a aussi et surtout ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire un usage de la raison qui n'est pas celui des sciences positivistes. Le paradoxe de Caillois, comme le paradoxe de la Renaissance, c'est peut-être de faire voile vers quelque chose qui serait une rigueur sans être un rationalisme.
Oui, c'est ça.
Voilà. Une rigueur scientifique non rationaliste.
Quelqu'un qui veut des garde-fous pour ne pas être entraîné justement dans la nef du même nom. il ne veut pas aller n'importe où, mais il n'empêche qu'il est prêt à accepter beaucoup. C'est-à-dire, sont prêts à être surpris aussi par l'expérience elle-même, non ?
Et il s'intéresse aussi, comme la Renaissance, aux franges de la raison.
Aussi,
il s'y intéresse
oui.
plus encore, aux marges de la raison, à ce qui n'est ni de l'irrationnel, ni de la raison. Et qu'il étudie et qu'il exprime dans un style d'une extraordinaire rigueur.
Oui.
C'est cela le paradoxe que je trouve, pour ma part, chez la plupart des philosophes de la Renaissance, ou mieux encore, chez la plupart de ceux, puisque la science dite moderne n'existe pas, à l'époque, on l'a fait traditionnellement partir de Galilée ou de Kepler, plus exactement, donc, ils s'intéressent à la science, aux sciences plutôt, sans tracer de frontières nettes, sans compartimenter, sans faire passer la grille d'une raison préétablie dans la continuité du savoir. Et voilà d'ailleurs le troisième mot, après l'imagination et la raison, qui, me semble-t-il, accoquine Caillois et la Renaissance, c'est l'idée d'une continuité. L'idée, plus exactement, d'une unité à l'intérieur de l'univers. La même intuition qu'avaient les Renaissants, en tout cas jusqu'à Giordano Bruno, d'une continuité macrocosmique reliant les planètes aux pustules que nous avons sur le visage, pour ne prendre que cet exemple vulgaire, cette même intuition, de toute évidence, fascine Caillois.
Bien sûr, bien sûr.
Et le texte que vous évoquiez, son premier texte sur la montre religieuse, qui est à mes yeux l'une des plus belles choses qu'il ait écrites, ce texte-là aurait pu, dans un autre style bien entendu, et mutatis mutandis, être écrit, pensé, signé, d'un auteur de la Renaissance.
Sans doute la pieuvre aussi.
On sait assez que les mœurs des mantidés fournissent au moins le prétexte à un intérêt si vivement exprimé. La femelle dévore le mâle pendant ou après l'accouplement. Aussi, les naturalistes distinguent-ils chez la montre religieuse la forme extrême de l'étroite connexion qui semble assez souvent unir la volupté sexuelle et la volupté nutritive. Il faut au moins à ce sujet citer, après Léon Binet, les études de Bristow et Lockett sur le Pisaura mirabilis, dont la femelle mange pendant le coït une mouche offerte par le mâle, celle de Hancock et von Engelhardt sur l'Ocanthus niveus, qui possède sur le métathorax une glande dont le contenu est absorbé par la femelle immédiatement avant l'accouplement. Particularité partagée par une blatte, la Philodromia germanica. Celle de Stitz sur la mouche scorpion, qui mange pendant le coït des globules de salive que lui a préparé le mâle, alors que la femelle du Cardiacephala myrmex se nourrit dans les mêmes circonstances d'aliments régurgités par le sien, qui souvent les lui offre de bouche à bouche, et que celle du Dectique à front blanc, ouvrant le ventre de son compagnon, en extrait la poche spermatique et la dévore.
Oui, ce texte m'apparaît, pour les raisons que vous dites, un texte de la Renaissance, mais aussi, ajouterais-je, pour deux autres motifs. D'abord, la démarche même de Caillois, qui consiste à aller pêcher avec une érudition qui, au contraire de l'érudition de mes années d'études, est toujours séduisante. C'est-à-dire une érudition aux limites de la fiction, une érudition légère, incisive, à aller chercher donc des références à la montre religieuse dans toutes les cultures, dans tous les domaines, à procéder méticuleusement à des analyses étymologiques. Démarche qui est celle des taxinomies. C'est un grand taxinomiste, oui, un adorateur des classifications. Et comme les gens de la Renaissance, précisément, qui ont passé leur temps à cela, à classifier et à établir des correspondances entre les cases du tableau. Et d'autre part, plus profondément peut-être, il y a dans ce texte sur la montre religieuse l'idée qu'il développera plus loin et qui le conduira même à une polémique, pour une fois, l'idée d'un universalisme, d'une universalité. Si j'évoque une polémique, c'est parce que il y a eu un débat sévère dans les années 55 à propos de race et histoire de Claude Lévi-Strauss sur la question de l'universalisme. Lévi-Strauss apparaissant aux yeux de Caillois comme le tenant d'un relativisme intolérable. Question qui, du reste, pourrait aujourd'hui ressurgir et nous intéresser, nous, non pas comme anecdotique, mais comme profondément actuelle. Toujours est-il qu'à l'occasion de ce débat est apparu en pleine lumière cet universalisme de type renaissant, encore une fois, qui, je crois, caractérise Caillois et qui est d'autant plus frappant qu'il n'est pas réductible, justement, au rationalisme. Au contraire.
Laurent Génie.
Vous savez, il y a quelque chose qui est une sorte de modèle épistémologique pour Caillois, c'est la table de Mendeleïev, avec les éléments simples, la table des éléments simples, qui est close, elle aussi. Et c'est un peu la vision que Caillois a de l'univers. Il y a un nombre de solutions finies, pense-t-il, et en particulier dans le monde des apparences, aussi diverses soient-elles, il y a un nombre de formes finies, qui fait que ça rime. Il y a des choses qui riment dans l'univers. Alors, par exemple, ça peut être l'attitude, justement, de la mante religieuse et les fantasmes de castration. Ça rime. Il n'y a pas de logique à ça, de raison à ça, mais il y a une rime, comme il y en a une entre les ailes de papillon, la diaprure des ailes de papillon, et puis la couleur optique de certaines pierres comme la labradorite. Ça rime, c'est aussi bien qu'on soit dans des règnes qui n'ont strictement rien à voir. Il y a des recoupements. Donc, ces rimes, elles justifient qu'on recherche une unité, mais cette unité, c'est pas du tout l'unité d'une harmonie préétablie. Ça signifie pas du tout que le monde est harmoniquement composé, que tout s'y répond. Non, c'est une unité locale, toujours, et de hasard, en fait. Elle relève plutôt du simulacre, chez Kaiwa, d'un simulacre dépourvu de sens, mais absolument fascinant, et qui nous donne à rêver, effectivement, sur les apparences.
La végétation par excellence, dont la puissance redoutable balance celle de l'homme, même au cœur des villes, où les racines des arbres font parfois sauter les pavés des rues. Je me souviens de mes premières impressions devant l'immense et comme invincible réserve de forces femelles, à la fois passives, sournoises et voraces. Un déchaînement lent et silencieux qui me fit peur. Je ne parlais pour mémoire que des corolles dont la splendeur, des feuilles géantes dont la douceur m'éblouissait également. J'avais hâte d'en venir au ficus du square de Lapa, au centre de Rio. Je garde les photographies que j'ai fait prendre alors de leurs troncs à claire-voie, comme des cages, des squelettes ou des cascades. Je les décrivis comme autant de corps tendus au paroxysme de leurs spasmes et revêtus de tuniques étroites aussi impitoyables que celles de Nessus, non pas ardentes, mais tissées de reptiles figés sur leur proie, et la tétanisant depuis des siècles. Pour compléter cette défiance instinctive, marquée chez moi par tant de symptômes que je ne puis guère récuser, la fascination et le recul devant l'immensité spongieuse de l'Amazonie, que j'imaginais gorgée de miasmes, de pestilences, de fermentations délétères, c'était mensonge. Pourtant, je me demande encore si, à ce degré, la chlorophylle n'offre pas, exclusive et surabondante, plus de périls que la pollution. L'hypothèse sacrilège marque à quel point je reste prévenu contre une fécondité aveugle, illimitée, que rien n'arrête, même pas son propre excès.
On a pu reprocher, non sans raison, je crois, à cette écriture d'être parfois un peu trop raide, un peu trop amidonnée, peut-être un peu trop surveillée. C'est sans doute vrai d'un certain nombre de textes de Kaiwa, où il donne l'exemple d'un néoclassicisme peut-être un peu contraint. Mais dans quelques-uns de ses plus beaux textes, c'est une prose qui a beaucoup d'allure, même si elle garde quelque chose d'un petit peu glacé. Et de ce point de vue-là, glacé, c'est aussi un adjectif qu'on peut mettre en rapport avec toute une thématique kaiwasienne, qui est la thématique de l'hiver, du froid, qui lui est très cher, n'est-ce pas ? À l'inverse, on sait que toute la nature végétale est quelque chose qui lui répugne, qui l'effraie. Il parle de la forêt amazonienne, par exemple, en des termes, enfin, bon, c'est un univers à la fois féminin et effrayant.
La peur d'être dévoré.
La peur, je crois, d'une vie trop peu maîtrisable. Et on retrouve quelque chose de cet ordre dans cette contrainte qui s'exerce sur son écriture, qui ne devient jamais une écriture foisonnante, qui se refuse au baroque.
Pour moi, l'image devait, dans toute la force du terme, être une image, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose à l'imagination. Et dont l'imagination, après, ne puisse plus se déprendre. C'est ce que j'ai plus tard appelé une image juste. Et par image juste, j'entends une image qui d'abord fait scandale sur celui qui la reçoit, mais à partir du moment où il y est habitué, il ne peut plus s'en déprendre. Il ne peut plus l'effacer ou l'estomper, il doit y succomber, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'il m'a semblé que, à part l'exactitude des mathématiques, par exemple, ou l'exactitude des sciences, il y avait une autre exactitude qui, elle, était contenue dans le domaine du sensible et du concret. Et c'est là que le domaine de la poésie m'a semblé résider. Et surtout, au moment où j'ai voulu communiquer aux autres les émotions que me procuraient les pierres, ou quand j'ai voulu décrire des paysages ou décrire des pierres, je ne fais pas tellement de différence entre les deux, parce que c'est une question d'échelle, une question de dimension. Bien, quand j'ai voulu les décrire, je me suis aperçu que c'était par l'exactitude que je pouvais espérer pouvoir reproduire chez autrui l'émotion que je ressentais moi-même. Et alors là, j'étais presque rejeté vers la poésie, contre mon gré, pour ainsi dire.
Caillou est venu assez tard à l'écriture, et à l'acceptation aussi de l'écriture littéraire, ou de la poésie. On sait que son entrée en littérature, c'est tout de suite sa sortie de la littérature, puisqu'il fait un passage très bref dans le surréalisme, mais c'est tout de suite pour rompre avec le surréalisme, pour rompre avec ce qu'il dénoncera plus tard comme les impostures de la poésie, c'est-à-dire la gratuité, selon lui, du poétique, son manque de preuves, sa facilité. Et il va falloir beaucoup de temps pour que Caillois retrouve une valeur à la poésie. En fait, c'est pas les surréalistes, bien sûr, qui l'ont ramené là. C'est Saint-Jean de Perse. C'est la méditation de l'œuvre de Saint-Jean de Perse. Caillois a écrit un essai sur Saint-Jean de Perse en 1953. Et à partir de là, on peut comprendre sa propre acceptation de l'écriture. Pourquoi est-ce que Saint-Jean de Perse a grâce à ses yeux? Ben, je crois d'abord parce que ce que Caillois voit chez Saint-Jean de Perse, c'est une sorte de science de la sensation. Saint-Jean de Perse, c'est le poète qui a élaboré une sorte de table d'équivalence entre toutes les sensations et qui a trouvé le langage aussi adapté, en fait, à cette table d'équivalence, le langage qui résonne avec elle. De ce point de vue-là, aux yeux de Caillois, Saint-Jean de Perse n'est pas du tout un poète subjectif, c'est un poète de l'universel. Il réalise une sorte d'encyclopédie du sensible. Et c'est ça qui intéresse Caillois. C'est précisément le fait que le sujet n'y apparaisse pas. Je pense, bien sûr, il n'écrit pas du tout comme Saint-Jean de Perse, mais c'est à partir de là qu'il peut accepter à son tour de se mettre à écrire, entre guillemets, poétiquement, et essentiellement à propos de ces structures rares que sont les minéraux. Ce sera plus facile avec cet objet-là d'avoir une écriture qui ne s'écarte pas trop de l'hyperclassicisme qu'il s'est donné comme style et comme esthétique. Effectivement, il va falloir trouver une écriture très coupante, très dense, sans feston, pour parler des pierres. Et à ce moment-là, on remarque qu'il y a une sorte d'isomorphisme qui s'établit entre cette écriture qui est dense et souvent assez impersonnelle, et puis son objet inerte qui est souvent un objet cristallin ou un objet qui a besoin d'être cerné avec des termes d'une grande netteté.
Vint la vie, une humidité sophistiquée, promise à un destin inextricable et chargée de secrètes vertus, capable de défis, de fécondité. Je ne sais quel glu précaire, quelle moisissure de surface, ou déjà sans fièvre un ferment. Turbulente, spasmodique, une sève, présage et attente d'une nouvelle manière d'être, qui rompt avec la perpétuité minérale, qui ose l'échanger, contre le privilège ambigu de frémir, de pourrir, de pulluler. L'arbre de la vie, cependant, ne cesse de se ramifier. Une écriture innombrable s'ajoute à celle des pierres. Des images de poissons, comme entre les touffes de mousse, évoluent parmi des dendrites de manganèse. Un lys de mer, au sein de l'ardoise, oscille sur sa tige. Une crevette fantôme ne peut plus tâter l'espace de ses longues antennes brisées. Des fougères impriment dans la houille leurs crosses et leurs dentelles. L'ammonite de toute taille, de la lentille à la roue de moulin, impose partout la marque de sa spire cosmique. Le tronc fossile, devenu opale et jaspe, comme d'un incendie immobile, se vêt d'écarlate, de pourpre et de violet. La matière insensible et compacte a remplacé l'autre en ses ultimes refuges. Elle en adopta les exactes figures, les plus fines ornières, si bien que le calque antérieur reste consigné dans le grand album des âges. Le signataire disparu, chaque profil, gage d'un miracle différent, demeure comme un autographe immortel.
Galerie Michel Cachou, Nicole Ruff.
Ah, voilà une pierre de rêve. Bon, si vous voulez, je dirais que une pierre, que ce soit une pierre en volume, que ce soit une pierre avec un dessin, était considérée comme un objet à part entière déjà par les Asiatiques. Puisque les pierres de rêve sont sacralisées en quelque sorte par un idéogramme depuis la fin du XVIIIe siècle. Et le poète Mifu mentionne une grande pierre qui représente une monsagne et s'étonne de ce que l'univers puisse être représenté, que le cosmos puisse être représenté simplement sur une plaque de marbre aussi petite. Alors voilà une septaria avec ces fameux dessins qui évoqueraient, si vous voulez, des fresques préhistoriques dont Caillois parle dans plusieurs de ses ouvrages. Paisine aussi. Je peux peut-être, je m'en pardonne une seconde, essayer de trouver un jaspe paysage dont il parle également dans les sentiers de la création.
Pierre Descargues, nous sommes ensemble à la galerie Michel Cachou. Dans cette galerie environnée de pierres donc que Roger Caillois venait de temps en temps regarder. Et ces pierres nous ramènent à la conception de l'art que pouvait avoir Roger Caillois.
Il y a deux choses, je crois. Son attention est aux pierres. C'est exprimé dans un bouquin qu'il a publié chez Skira, dans les Sentiers de la Création, en 1970, quelque chose comme ça. Et là, évidemment, il passe en revue sa collection. Il a parlé que des choses qu'il possédait, ce qui est assez intéressant. Il passe en revue sa collection et il y a des paésines, il y a des septaria, il y a tout ce qu'on peut voir dans cette maison. Alors bon, bah, ils connaissaient tout. C'est évident que Athanasius Kircher, il avait lu ça par cœur. Il connaissait ce que c'était. Il avait tous les albums. Il a tout feuilleté, tout lu dans les bibliothèques. C'est même qu'il savait tout et qu'il était à la fois ce connaisseur de la pensée, de l'art, de la philosophie ancienne. Et cet attentif qu'il a été à la création contemporaine, je trouve ça merveilleux. D'autre part, je voudrais dire une chose, c'est que les bouquins d'esthétique, généralement, on n'arrive pas à les lire, tellement c'est plein de citations. Hein, c'est ses références à machin, à choses, à trucs, et comme truc a dit, etc. Moi, j'y comprends rien. Mais quand je lis Caillois, esthétique généralisée, il n'y a pas de citation. Caillois est un monsieur qui pense tout seul, qui a pas besoin de s'appuyer sur autre chose. Et puis alors, la merveille des merveilles, c'est que Caillois, l'écriture de Caillois, c'est un bonheur, quoi. Une définition de l'esthétique généralisée par Caillois. Une esthétique, c'est ça qu'il recherche. Une esthétique capable de prendre en considération non seulement les formes de l'art, celles de la nature, et toutes les formes rigoureusement possibles. Vous voyez l'espèce d'ouverture totale qu'il a cherché. C'est un homme qui a, je crois, toute sa vie, je connais pas l'ensemble de son œuvre, mais qui a cassé les systèmes. C'est pour ça qu'il est pas. Et puis je pense que ces pierres qu'il admirait, ce qui l'intéressait, c'était qu'au fond, il fallait aller chercher au centre de la Terre, casser quelque chose. Et dans cette ouverture, tout d'un coup, apparaissait une espèce de révélation absolument fabuleuse, que étaient les paysages dont on parlait tout à l'heure, ou bien les septaria qui sont des tableaux de Georges Mathieu, mais faits par la nature, quoi.
Et c'est effectivement un esthète, parce que je ne sais pas s'il connaissait la formule chimique de la pyrite. De toute façon, la question n'était pas là. C'était que représentait cette masse, en quoi elle évoquait aussi les temples asiatiques dont il a si bien parlé par ailleurs.
Caillois parle dans son esthétique généralisée des cristaux. Et tout d'un coup, il y a cette phrase qui arrive, parce que c'est son interrogation. Il ne regarde pas des pierres en minéralogiste, cette dame vient de le dire à l'instant, ni en amateur de ressemblance à l'art plastique. Il peut faire ça aussi, bien sûr. Mais il regarde en fonction des questions que nous nous posons. Et il dit ceci, les cristaux, il y en a plein autour de nous, les cristaux, il leur manque le germe de la mort. C'est donc interroger profondément l'objet qu'on regarde, en essayant de se retrouver dedans et d'y mettre dans cet objet, toutes ces interrogations profondes. Une autre phrase qui est admirable, qui est dans l'écriture des pierres. Et ça, vous voyez, ça, c'est la démonstration de Caillois. Il est toujours en train d'essayer de réfléchir à ce que ça peut nous faire. Et il dit ceci. Le dessin singulier d'une agate me conduit soudain à extrapoler follement, à poursuivre jusque dans le travail obscur de la pierre à l'aurore des temps, les traces de semblables avortements. Les échecs qu'ils perpétuent deviennent pour moi, par leur bizarrerie même, d'éloquents présages. Et s'ils ne sont présages, ils sont du moins blasons. D'une certaine manière, ils annoncent la venue de l'espèce fourvoyée chez qui, dans un lointain futur, la liberté et l'invention, avec les déboires qu'elles entraînent nécessairement, prendront le pas sur les mécanismes infaillibles, inévitables, dès le début achevé. Puissance nouvelle, boiteuse, mais fertile. Ça, c'est quand même tout à fait Caillois, parce qu'il est capable de voir l'avenir, le passé, le présent, et lui-même, et nous-mêmes, dans notre condition humaine, dans un caillou qui regarde. Ça, je trouve ça formidable.
Pour lui, il n'y a pas de cloison étanche, il n'y a pas de mur entre l'animé et l'inanimé. Et après tout, la pensée de la mort, qui est fréquente enfin chez lui, lui rappelle à chaque instant que nous finirons dans ce que nous appelons l'inanimé, enfin que nous serons un jour proches du caillou. Et donc le caillou est peut-être notre origine et notre fin, notre destin. Vous voyez ça, il le dit très bien dans un texte assez merveilleux et dur d'ailleurs, qui s'appelle Patagonie. Ce texte qui est inspiré par la région réelle qui s'appelle la Patagonie, c'est-à-dire le sud de l'Argentine, et où il y a en quelque sorte plus rien. Bon, et bien quand il n'y a plus rien, il y a encore tout pour Caillois. Et quand il n'y a plus que du caillou, il y a encore toute la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est l'animé et l'inanimé. Alors que d'habitude, on a tendance à penser que l'inanimé, ça n'est plus la vie. Bon, je crois que c'est ça l'originalité de sa pensée, de ce point de vue. Et sans doute qu'il était comme hanté, en effet, par la rigidité du cadavre.
Vous parlez, Gérard Massé, à la fin de sa vie, évidemment, enfin, pas tout à fait à la fin de sa vie, mais c'est en 71, je crois, que Roger Caillois entre à l'Académie française, il est académicien. Et vous avez aussi une manière tout à fait personnelle de parler de cette entrée à l'Académie. Vous parlez d'un camouflage derrière la musée.
Ah oui, je me suis amusé un jour où en effet, je relisais, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, je relisais un été Méduse et compagnie,
Et il parle en particulier des sauriens et puis des lézards, des sauterelles, etc. Et je lisais ça dans un paysage où j'étais entouré de lézards. Et tout à coup, le rapprochement un peu incongru m'est venu entre le lézard et l'habit de l'académicien. Alors à cause de la couleur d'abord, et puis aussi parce que chez tous les sauriens, de manière générale, il y a une espèce de peau qui devient carapace, comme ça. Bon. Et je pense que Caillois a forcément, ou presque forcément, pensé à ce genre de rapprochement, et qui devait plutôt le faire sourire, l'amuser. Il me semble qu'il y avait, par rapport à lui-même, comme un jeu. Mais il y a aussi que, très sérieusement, il aimait les institutions. C'est aussi un aspect de sa personnalité. Parce que j'ai l'impression que Caillois est quelqu'un qui voit bien que partout le chaos menace, hein, et qu'il se sent lui-même menacé par le chaos, l'émiettement, la diversité trop grande. Et donc, la vie sociale, la vie politique sont aussi de la même nature. Enfin, ça n'échappe pas à cette menace. Et donc, les institutions servent à régler quelque chose dans les échanges et dans la vie publique. Et donc, il n'avait rien contre l'UNESCO, par exemple. On sait quel rôle il y a joué. Il a fondé aussi la revue Diogène ou l'Académie.
Dans les sociétés à masque, nous avons un complexe dissimulation, déguisement, si vous voulez, un complexe présence de l'au-delà, une présence active de l'au-delà, présence des lieux, et puis une autre combinaison entre la comédie, parce que l'homme qui fait ça n'est tout de même pas dupe, il sait qu'il reste un homme, il l'ignore peut-être dans le moment où il subit la transe, où il subit le paroxysme, mais il se souvient après. Mais une espèce de complexe de comédie, de transe et de possession qui régit toutes les sociétés primitives. Et elle les régit à un triple point de vue. Elle les régit au point de vue religieux, bien entendu, puisque ces êtres masqués sont les incarnations de l'au-delà et des dieux. Elle les régit au point de vue politique, puisque ces sociétés gouvernent pratiquement et terrorisent le reste de la population, soit féminine, soit adolescente, et puis même au point de vue économique, puisqu'il faut acheter ces masques pour avoir les droits de les porter.
Claude-Pierre Pérez, nous sommes à l'instant sous la coupole. Sous la coupole de l'Institut de France, à l'Académie française. Et on peut se souvenir, à ce moment-là, bien sûr, de l'entrée de Roger Caillois à l'Académie française. Il est entré à l'Académie française en 1971, et il a fait son discours de réception le jeudi 20 janvier 1972. Mais je crois que ce jour-là était déjà un jour assez particulier.
C'était un jour particulier en raison des circonstances dans lesquelles Caillois a dû prononcer ce discours, puisque il se trouve qu'il y a eu ce jour-là une panne d'électricité au moment où il devait parler, au moment où il parlait, donc il n'y avait plus ni lumière ni son, et que, comme Caillois s'est voulu à un certain moment de son existence luciférien, on peut peut-être supposer une quelconque intervention diabolique dans cette manifestation.
Alors, nous avons sous les yeux justement le début de son discours de réception.
Messieurs, qui avaient des manières bien à vous d'accueillir les plus rétifs et qui savaient oublier leur turbulence, parfois leur blasphème, vous n'ignorez pas que je vous arrive de plus loin qu'il n'est coutume et qu'il m'aura fallu accomplir un parcours anormalement long avant qu'il ne me vienne, à la surprise de plusieurs, l'idée de solliciter vos suffrages. Le fait que vous me les ayez accordés n'a probablement pas été pour d'autres, parfois pour les mêmes, un moindre sujet d'étonnement. À tort, assurément. Car si sur réalisme et académie sont mots qui jurent encore d'être assemblés, chacun connaît votre souci constant de ne jamais tenter de figer la littérature française en un point défini de son histoire, mais de la reconnaître qui change, cependant que vous vous efforcez, d'autre part, d'en maintenir la continuité essentielle.
Thank you.
avec Odile Felgine, Gérard Massé, Yves Ersant, Laurent Génie, Claude-Pierre Pérez, Pierre Descargues, Nicole Ruff et la voix de Roger Caillois. Archives INA, Emmanuel Pige. Les textes de Roger Caillois étaient lus par Éric Herson-Macarel. Remerciements à Laurent Personne, directeur de l'Académie française, et à la galerie Michel Cachou. Une vie, une œuvre. Roger Caillois. Prise de son, Jean-Richard Dufour, Marcel Lebras, Éric Damaggio, Gilles Gallinaro. Mixage, Patrick Marguerite, Alice Tamaccio. Une émission de Simone Douek, réalisée par Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 novembre 1998. Vous pouvez la réécouter en ligne et la podcaster sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page des nuits et sur l'application Radio France.